24. Au programme, concerts, installations sonores dans l'espace public, films expérimentaux et arts visuels. Pour des billets et tous les détails sur le 40e FIMAV, visitez le fimav.qc.ca.
Bonsoir à tous. Vous écoutez l'émission culturelle en aparté sur les ondes de CKRL 89.1 à l'animation Calypso le Moine comme chaque lundi soir 19h. Merci d'être au rendez-vous. Et là, sans plus attendre, je vous dévoile ce qui vous attend pour la prochaine heure. En deuxième partie d'émission, j'aurai la chance de m'entretenir avec Tatiana Zinga Botao, co-metteur en scène de la pièce « M'appelle Mohamed Ali » qui foulera les planches du Diamant du 25 au 27 avril prochain. C'est une production de la compagnie Théâtre de la Sentinelle et c'est un texte de Dieudonné Nyanguna. Tatiana signe la mise en scène avec Philippe Racine. Sinon, en première partie d'émission, je discuterai avec Citlali Germé de son spectacle « Moi, Chiquita ». C'est une production, une chorégraphie et une interprétation qu'elle porte. Nous pourrons découvrir son travail au Théâtre Jeunesse Les Gros-Becs du 23 avril au 5 mai. Et c'est important de mentionner que c'est une coprésentation avec La Rotonde qui s'adresse à un public de 6 à 10 ans. Il y avait justement Laurence Bégin qui était venue nous parler brièvement de ce spectacle-là quand elle avait fait un survol de la programmation de La Rotonde. Donc là, on pourra discuter avec l'artiste et en apprendre davantage sur le spectacle. Mais avant d'avoir ces belles conversations, je vous propose d'aller en musique avec Assonance de Camilou et on se retrouve tout de suite après avec Citlali. Restez là!
Je sais pas si un jour je serai une resta. Pour l'instant, je mange les restes moi-même. C'est resta. Stabilité, inédite, c'est débile. Je fais des rimes qui riment même pas. Gros délire, je le mérite comme un monde. Je fais les rangs, je vagabonde, je fais des sprints, petite restera. Je croise le regard de ceux qui sont plus là, de ceux qui ont su faire ce que nous on était trop, trop. Et à force de croiser le diable, à croire qu'il est plutôt fier, je me mets à prendre mon affection. C'est seul qui reste par ma side. Essayer de le prendre dans mes bras, lui faire une accolade. Dessiner dans un cahier comme Light. Fini par écrire mon propre rime.
Qu'est-ce que tu me fais? Qu'est-ce que tu me fais? Phrase trois l'autre, j'pas les restes, tu me plais, j'pas mes rêves, tu me plais. Phrase trois l'autre, mes restes, tu me plais, pas les restes, tu me plais. Mais qu'est-ce que tu me fais? Enculé, mais qu'est-ce que tu me fais? Qu'est-ce que tu me fais? Enculé, mais qu'est-ce que tu me fais? Phrase trois l'autre, j'pas les restes, tu me plais, j'pas mes rêves, tu me plais. Phrase trois l'autre, mes restes, tu me plais, pas les restes, tu me plais. Mais qu'est-ce que tu me fais? Enculé, mais qu'est-ce que tu me fais? Pas les restes, tu me plais.
J'vais pas seulement être celle qui passe aux nouvelles ou qui reste. Pour différence de sexe, vous oubliez tout le reste. Les paroles, les sons, les tempêtes, non ça vaut plus la peine. Tout ce qui me reste c'est vos vieux commentaires. Sache que si j'ose, y'a peut-être d'autres qui vont vouloir le faire. Prière des loups, je commence à manquer d'air.
Je commence à manquer d'air.
Même discours, je consens pas à ta main quand tu dis que tu vas baiser des mères. Le diff tourne, elle se lance n'importe que des problèmes. Assonance dans mes oreilles. Je prends un verre avec elle pour lui dire que son fils a gagné la violence entre les lèvres.
Mais qu'est-ce que tu me fais? Enculé, mais qu'est-ce que tu me fais? Phrase devant l'autre, j'pas les restes, tu me plais, j'pas de mes rêves, tu me plais. Phrase devant l'autre, mes restes, tu me plais, pas les restes, tu me plais. Mais qu'est-ce que tu me fais? Enculé, mais qu'est-ce que tu me fais? Qu'est-ce que tu me fais? Enculé, mais qu'est-ce que tu me fais? Phrase devant l'autre, j'pas les restes, tu me plais, j'pas de mes rêves, tu me plais. Phrase devant l'autre, mes restes, tu me plais, pas les restes, tu me plais. Mais qu'est-ce que tu me fais? Enculé, mais qu'est-ce que tu me fais? Pas les restes, tu me plais.
Vous venez d'entendre Assonance de Camille Lou et vous écoutez En aparté avec Calypso Lemoine à l'animation. Et là, comme annoncé en introduction d'émission, je suis avec Citlali Germé pour discuter de son spectacle Moi Chiquita. C'est une production, une chorégraphie et une interprétation qu'elle porte et on pourra découvrir son travail au Théâtre Jeunesse Les Gros Becs dès demain et ce jusqu'au 5 mai. C'est une co-présentation avec La Rotonde qui s'adresse à un public de 6 à 10 ans. Bonsoir, Citlali.
Oui, bonsoir.
Citlali, est-ce que tu es fébrile de présenter ton spectacle à Québec dès demain matin?
Oui, en fait, il faut que je corrige un petit peu parce que ça va être seulement à partir de vendredi. Nous allons présenter le spectacle. On a décalé un petit peu les dates, mais il n'empêche que oui, je suis quand même très fébrile.
Puis, si on parle de l'histoire de Moi Chiquita, ton spectacle, ça semble quand même adresser des thématiques autour de la quête identitaire, des identités multiples qu'un individu peut avoir. Quelle est l'histoire de ce spectacle-là? Parle-nous-en davantage.
Mais c'est vraiment une première création. Alors, en fait, je me suis vraiment basée sur mes propres questionnements. J'avais envie de créer un spectacle de danse pour le jeune public. Ça, c'était là dès le début. Il y a très peu de danse jeune public. Puis j'avais envie qu'il y ait plus de monde qui ait accès à la danse contemporaine, puis qu'on ait un petit peu plus de facilité à rentrer dans cette abstraction-là. Et c'est un moment dans ma vie où moi, je me posais vraiment beaucoup de questions sur moi-même parce que je suis née au Mexique, mais j'ai grandi en France et là, ça fait plus de 10 ans que je suis au Québec. C'est que déjà, culturellement, c'est assez mélangé. Puis j'ai eu, comme beaucoup d'entre nous, beaucoup de questionnements par rapport à qu'est-ce que ça voulait dire être une femme, tout le féminisme, le patriarcat, les normes. C'est que c'est toutes ces questions que je me posais à l'époque que j'ai eu envie d'adresser aux plus jeunes, qu'on puisse en parler, en fait, dès 6 ans, de comment on fait pour savoir qui on est, quand, par exemple, les autres nous disent, nous ont déjà mis une étiquette, ça arrive assez tôt, et donc j'avais envie de partager ça avec les plus jeunes.
Puis, je comprends d'où vient cette idée-là, cette envie-là de mettre ça sur scène, mais comment tu as travaillé plus précisément sur le spectacle? Mm-hmm. Quelles ont été les différentes étapes de création suite au moment où tu as eu envie d'adresser ces choses-là au jeune public?
Oui, alors j'avais fait une petite première ébauche, un peu plus toute seule, et j'avais envie d'aller plus loin. Mais je sentais que j'avais besoin d'une équipe autour de moi, d'être pas toute seule à la barre. Et je suis allée chercher Andréane Joubert, qui est, à l'époque, elle était pas, mais maintenant, elle est co-directrice artistique de Dynamo Théâtre, qui est une compagnie de théâtre de mouvement acrobatique. Fait qu'elle avait vraiment l'habitude de travailler les mots et le mouvement. Et c'est vraiment ça que je voulais. Je voulais pouvoir raconter une histoire. Parce qu'en danse, souvent, c'est ça, on raconte pas forcément dans la narration. Et moi, j'avais envie quand même qu'on puisse avoir quelque chose de plus narratif, un fil conducteur qu'on puisse suivre. Donc, je lui ai proposé de travailler avec moi. Les thématiques l'intéressaient, on s'entendait bien. Donc, elle a accepté. C'est avec elle, en parlant vraiment beaucoup, qu'on a réussi à avoir une première trame un petit peu. Donc, elle a mis des mots, elle m'a proposé plusieurs histoires, puis finalement, j'ai dit « Ah oui, c'est ça que je veux raconter. » C'est ça que j'ai dans ma tête depuis le début. Puis, dès le début, elle me proposait des histoires, des mises en mots, mais moi, je proposais des mouvements. J'étais déjà dans la recherche gestuelle. Donc, c'est comme ça. Toutes les deux, d'abord, on a beaucoup travaillé en studio ensemble. Et puis, quand on a eu nos subventions, ça a changé beaucoup la donne, évidemment. On a pu avoir toute une équipe de concepteurs et donc le musicien est arrivé quand même très tôt aussi, c'est très important. La personne qui a fait les costumes, j'avais très envie que ça passe par les costumes, cette quête identitaire aussi. Et donc, elle a pu être là assez tôt dans le processus de création de voix et donc de me proposer aussi sa vision à elle des choses. Donc, ça a été, c'est ça vraiment un aller-retour mouvement texte et puis ensuite des concepteurs autour. Mm-hmm.
Puis tu l'as mentionné quand même, un des éléments importants du spectacle, eh bien, c'est la musique. Puis il y a un musicien qui est sur scène avec toi. Et qu'est-ce que ça apporte de plus ou en tout cas de différent, sa présence sur scène, plutôt que de t'avoir seule sur le plateau?
Oui, ben moi j'ai toujours aimé qu'il puisse y avoir vraiment un vrai dialogue entre la danse et la musique. Pour moi, dans la création, je crée avec de la musique. Au début, c'était pas forcément ses créations à lui, mais je suis pas capable de différencier moi le mouvement de la musique.
Ouais.
Et en fait, c'est un musicien finalement. Non, il n'y en a pas dans le spectacle, mais dans le spectacle, il est surtout à la guitare, mais c'est aussi un percussionniste, un excellent percussionniste des percussions d'Afrique de l'Est. Et donc, en fait, il a pu improviser beaucoup en studio avec moi. Et donc, ça permettait de tout de suite rentrer dans un dialogue plutôt que d'utiliser des trames qui racontaient autre chose. Lui, il me proposait live en studio. C'est des propositions musicales, donc beaucoup avec, c'est ça, de la guitare, mais beaucoup de percussions aussi. Et puis, de la voir sur scène, ben c'est ça, il y a quand même un dialogue. C'est un peu comme de regarder un film ou d'être au théâtre vivant. Je trouve que d'écouter une guitare qui est jouée live par quelqu'un, c'est pas pareil que d'avoir une trame sonore. On en a aussi dans le spectacle, des trames sonores, mais c'est ça, lui... il est quand même présent, puis à certains moments aussi il envoie des sons, et ça c'est pareil, il se base vraiment, c'est un peu comme à la régie, il se base sur ce qu'il voit, donc c'est pas forcément à moi, ça me donne la liberté, moi, de ralentir des fois, ou d'accélérer, et il peut me suivre. Donc j'aime beaucoup ce dialogue-là, puis en fait, comme il était là assez tôt, finalement, on lui a donné un rôle dans la dramaturgie. Il a été, on lui a donné le rôle de la grand-mère, c'est Abuela dans le spectacle, on l'appelle en espagnol Abuela. Alors voilà, ça a été un plus.
Absolument. Puis tu parlais aussi de la présence qui était assez importante de tout l'aspect des costumes. Qu'est-ce qui nous attend d'un point de vue visuel sur scène à ce niveau-là?
Je veux pas en dévoiler
trop.
Ok,
c'est vraiment un élément.
Oui, mais non, mais je peux quand même vous dire que en fait, je porte plusieurs costumes sur moi. Ça nous permet. En fait, moi, je bouge de manière très différente selon les costumes que je porte, et ça permet de transformer quand même visuellement le personnage sur scène. C'est pas juste la gestuelle ou juste la musique, quand même la manière dont on va l'habiller, ça nous renseigne quand même sur une facette du personnage, et donc ça nous permet quand même vraiment de suivre plus sa quête et toutes les facettes qu'elle va visiter de sa personnalité. Puis c'est visuellement très beau. Il y a un côté esthétique d'art visuel qui est présent, qui est quand même... ça rajoute des couches à la narration. Il y a les mots, il va y avoir la danse, la musique, mais il y a aussi une partie de la dramaturgie, de la narration qui est portée par les costumes.
Puis tu le mentionnes, justement, il y a différents éléments, autant au niveau chorégraphique, au niveau du texte, au niveau de la musique, au niveau des costumes. Si on se tourne au niveau des décors, est-ce que c'est aussi un décor qui est imposant ou on est plus dans quelque chose de plus minimaliste pour mettre ton corps et la présence du musicien de l'avant?
J'ai envie de dire que c'est assez relatif, ce qu'on appelle minimaliste.
Oui, absolument.
J'avais pas en tête de scénographie au début de ma conception, parce qu'en effet, en danse, souvent, on veut le plateau très libre pour pouvoir bouger. Ça a été vraiment une proposition de Gabriel Bossebib, qui a fait les costumes et la scénographie. Elle a quelque chose d'un peu imposant, parce qu'elle est, elle est accrochée en l'air, c'est suspendu, c'est un tulle qui est en arrière de moi, avec on a dessiné dessus des montagnes. Mais en même temps, elle me laisse beaucoup de place sur le plateau. Mais ça me permet de créer un univers plus intime. C'est l'univers de Chiquita. On est dans son monde à elle. Et puis, ça nous a permis aussi de faire des effets d'éclairage. Ça place le personnage dans un environnement plutôt que d'être à plateau nu complètement. Ça nous met tout de suite dans l'imaginaire. On peut tout de suite voir, j'ai dit des montagnes, mais parfois certains voient des nuages, parfois certains voient de l'eau. On peut voir plein de choses. Donc, on est tout de suite dans un univers plus... Dans l'imagination, puis on est dans un univers qui n'est pas réel. Ça, on est ailleurs.
Ouais. Puis tu l'as mentionné, c'est de la danse contemporaine qu'on pourra découvrir. Mais je comprends qu'il y a différents éléments qui vont affecter les mouvements selon le costume, selon la tension émotive du texte à certains moments dans la pièce. Là.
Oui, oui. Ça a été tout un défi de parce qu'on a souvent notre signature, notre manière de bouger à nous, mais je voulais quand même que ce soit c'est assez narratif, assez évocateur, on va dire. Donc chaque, c'est comme des tableaux, on pourrait dire, chaque tableau a sa couleur. Donc musicalement, c'est des tableaux très différents au niveau de l'éclairage, au niveau de la gestuelle aussi. J'ai essayé de proposer à chaque moment quelque chose de différent. Donc la danse, c'est ça. Même si on reste dans l'univers de la danse contemporaine, qui est très vaste, c'est quand même des gestuelles, des rythmiques qui sont différentes dans chaque tableau. Puis c'est Ça sert l'histoire, ça sert la dramaturgie, puis c'est vraiment le fun à faire aussi comme interprète. Exactement. Mais c'était aussi dans le but d'un enfant de 7 ans qui a jamais vu de danse contemporaine. C'est difficile d'avoir 50 minutes sur une seule gestuelle ou une seule texture. Puis même parfois pour des adultes qui sont moins habitués à voir de la danse, ça permet d'avoir, s'il y a un tableau qu'on aime moins, quelques minutes plus tard, on est dans un nouvel univers, un nouvel type de musique, gestuelle, ça change. C'est que ça permet aussi de garder les jeunes spectateurs captifs.
Absolument. Puis l'aspect multidisciplinaire aussi du spectacle doit quand même les accrocher par le fait qu'il y a du texte, il y a de la danse, il y a de la musique. Donc ça, c'est sûr que ça doit accrocher quand même l'attention des enfants et des moins jeunes également.
Mm-hmm. Oui, il y en a qui accrochent sur le musicien en arrière avec sa guitare, puis, d'autres c'est plus la musique, et en effet, juste le fait de donner quelques mots auxquels ils peuvent s'accrocher, même si on a fait quand même confiance à l'intelligence des enfants, c'est-à-dire qu'on donne pas toutes les clés, tout va pas être dit complètement, ou ce qu'on va être dit, on sait que ça peut être un peu complexe, ils vont peut-être pas le comprendre tout de suite. Se demander qui on est, c'est une grosse question. mais on, quand même, ça, c'est vrai que ça aide à accrocher, à mieux suivre le personnage dans sa quête, dans son histoire. Que s'il y avait juste des mouvements, c'est vrai que c'est ça. C'est une autre manière de recevoir le spectacle.
Absolument. Puis est-ce que ce spectacle-là t'a donné envie de t'adresser à nouveau, avec un nouveau spectacle au jeune public?
C'est sûr que le jeune public, j'aime beaucoup ça. En tant qu'interprète aussi, je travaille avec plusieurs compagnies jeunes publics. C'est un public qui est très exigeant, en fait, parce que quand on a 300 enfants devant nous, si ça marche pas, on le sait tout de suite. Si on les accroche pas, et c'est ça. Mais c'est aussi un public qui, on va les entendre rire, on va les entendre crier, on va les entendre frissonner, qui est très, très vivant. C'est un public qui est beaucoup moins poli, mais dans le bon sens du terme. J'aimais beaucoup ça, puis j'aime beaucoup aussi dire que dans la salle, il y a de tout. Il y a tout le monde, il y a toutes les classes sociales, peu importe. J'ai devant moi un public qui est très diversifié, en fait. Beaucoup plus qu'en grand public, où on sait que c'est un certain type de personnes qui peut se permettre d'aller au théâtre ou qui va avoir de la danse. Donc, c'est sûr que j'aime beaucoup ça. Je pense que oui. La réponse n'est pas encore sûre parce que la vie est complexe. mais l'envie est là. Je pense que ça va prendre un certain temps. Comme tu le mentionnais, je gère cette production-là aussi. Donc, il y avait beaucoup de chapeaux. Mais je pense que quand ça va se recalmer un petit peu, je vais sûrement me relancer en création, oui.
Absolument. Puis, justement, là, tu arrives tout bientôt à Québec. Est-ce que le spectacle a une suite? Est-ce que vous poursuivez cette rencontre-là entre le public et moi, Chiquita?
On a pas mal tourné cette année,
c'est
en
ça.
Fait. C'est comme un peu à la fin de la saison. Ouais, c'est ça. On va le représenter un petit peu à Montréal au mois de juin.
Okay.
Ça va clore notre saison. Pour la saison prochaine, malheureusement, il n'y aura pas de date, à moins qu'il y ait une surprise. Mais on va garder le spectacle encore vivant, comme on pourrait dire, en tout cas. On va encore le représenter aux diffuseurs pour la saison d'après.
Oui.
Ça va être... Et puis, on va voir, c'est ça, quelle est la suite... et la suite. C'est pas sa fin de vie, oui. Mais pour l'instant, on ne sait pas trop.
Oui. Bon, ben, merci beaucoup, Citlali Germé, d'avoir accepté mon invitation. Et là, je me reprends. Moi, Chiquita, ben, c'est co-présenté par la Rotonde et le Théâtre Jeunesse et Québec du 26 avril au 5 mai.
Oui.
Donc, pas dès demain matin.
Non.
Il va falloir patienter encore un petit peu avant de pouvoir le voir. Ben, merci beaucoup. Puis,
merci beaucoup.
On se retrouve à Québec tout bientôt.
Merci. Bonne soirée.
Bonne soirée. Donc, on va aller faire une courte pause musicale. Je vous propose de rester à l'écoute de CKRL. On va aller écouter quelques pièces de Valère, Beanbag Theory, Flavor et Mi-Cheval. Puis par la suite, on va retrouver notre deuxième invité de la soirée.
Thank you. Dans le cadre du Radioton 2024 de CKRL, la tradition se poursuit. Une édition toute spéciale de Rue d'Auteuil en entretien et en prestation. Cette année, votre référence en blues à Québec vous propose le spectacle intime d'une véritable légende, le pianiste Guy Cardinal. Ici Jacques Dulac. Joignez-vous à moi le vendredi 26 avril dès 20h30 sur les ondes de CKRL pour profiter de cette soirée exceptionnelle. Et rendez-vous sur lepointdevente.com pour vous procurer des billets VIP afin d'assister au concert de Guy Cardinal. Et ainsi, contribuer au financement de votre radio favorite.
Dans le cadre du 40e Festival international de musique actuelle de Victoriaville, CKRL 89.1 est fier de collaborer à la présentation du concert Community Ensemble with Harry Brown, de l'ensemble Natural Information Society, mené par Joshua Abrams, le vendredi 17 mai 2024 à 22h. Pour des billets et tous les détails sur le 40e FIMAV, visitez le fimav.qc.ca.
Le Palais Montcalm vous offre le meilleur de la musique avec le jazz vocal d'Andrea Superstein.
Little one, you're so lovely. You'll find your way.
L'artiste canadienne qui brille par sa voix riche et ses mélodies accrocheuses célèbre la parentalité avec son nouveau spectacle Oh Mother. Le 4 mai, au Palais Montcalm, laissez-vous bercer par les chansons à la fois originales et accessibles d'Andrea Superstein.
Du 13 au 16 juin, le Festival de la chanson de Tadoussac, présenté par Québécois en collaboration avec Hydro-Québec, fête ses 40 ans. De Élie Sapie à Philippe Braque, en passant par Marjo ou Safia Nolin, tu trouveras ton bonheur dans la programmation. Viens profiter du festival et célébrer avec nous 40 ans de fête avec des surprises et des concerts en pleine nature Loto-Québec. Laisse la magie de Tadoussac s'emparer de toi. Billets et passeport sur chantadoussac.com.
L'Anglicane présente un concert exceptionnel. Le 27 avril, laissez-vous transporter par l'alchimie musicale de Chang Puissance 2 Duo. Réservez vos places dès maintenant à l'Anglicane de Lévis. Billets disponibles au espacedcl.ca.
Ici Pierre Dolbecq qui vous invite à la deuxième édition du Diapason Fest qui aura lieu le 9 mai prochain au Quartier de Lune. Un spectacle bénéfice dont les profits seront remis à CKRL et à la Fondation Amplisson, avec des prestations des artistes émergents suivants. Juillet, Uriel, Hidden Bliss et Pretty Smile. Joignez-vous à nous pour encourager notre scène locale émergente. Les billets pour le Diapason Fest sont en vente sur le pointdevente.com au coût de 25$.
Ici Éric Bédard de l'émission Prescription Punk Rock. J'aimerais à mon humble nom vous inviter ce samedi 27 avril à écouter notre émission spéciale lors du Radioton de CKRL. Deux artistes bien spéciaux pour vous, soit Cheyenne X, une formation de la relève, et on va avoir bien sûr les grands gagnants de l'album punk 2023, Enfants Sauvages. Si vous voulez vous déplacer, vous pouvez le faire. Il y a des billets qui sont présentement disponibles sur lepointdevente.com. En mon humble nom, j'aimerais vous dire Hell yeah!
Vous écoutez En aparté, animé par Calypso Lemoine sur les ondes de CKRL 89.1. J'ai la chance d'avoir avec moi Tatiana Zinga-Botao, qui est co-metteur en scène de la pièce « M'appelle Mohamed Ali », qui foulera les planches du Diamant du 25 au 27 avril. C'est une production de la compagnie Théâtre de la Sentinelle et c'est un texte de Dieudonné Nianguna. Tatiana signe la mise en scène avec Philippe Racine. Bonsoir, Tatiana.
Bonsoir.
Tatiana, je le sais que vous présentiez le spectacle il y a quelque temps à peine au Théâtre du Nouveau Monde à Montréal. Comment se sont passées les représentations et comment anticipez-vous celle qui arrive tout bientôt au Diamant?
Écoutez, ça s'est super bien passé au Théâtre du Nouveau Monde. La réception, le public, l'accueil était vraiment chaleureux. Il faut savoir que c'est quand même une pièce qui parle de sujets... lourd, même s'il y a beaucoup d'humour dans la pièce, mais on parle quand même de racisme, de revendications, on rit beaucoup, on rit et des Noirs et des Blancs, mais j'ai trouvé que le public était super réceptif, il a compris tous les seconds degrés, on a juste hâte d'être à Québec.
Absolument, puis c'est un spectacle quand même que vous présentez depuis quelques années déjà, il n'est pas à sa première année de vie. Si on retourne aux sources, quels ont été les éléments qui vous ont donné envie à vous et Philippe Racine de travailler sur ce texte-là?
Mais moi, en fait, je suis d'origine congolaise, donc Dieudonné Nianguna, l'auteur, c'est notre Michel Tremblay, là, si je peux dire. Donc, c'est vraiment notre grand dramaturge. Ça faisait longtemps que j'avais envie de jouer une de ses pièces, mais de pouvoir la présenter, même. C'était rêvé. Puis, Philippe Racine, lui, il a rencontré cette pièce il y a quelques années lors d'un festival qui s'appelle Dramaturgie en dialogue, qui est mené par le CEAD. Et c'est Alice Ronfard qui faisait la mise en lecture et il a eu un coup de foudre. Donc, quand Philippe et moi, on s'est mis à chercher des nouveaux textes pour présenter pour notre compagnie de théâtre, on a tout de suite pensé à M'appelle Mohamed Ali de Dieudonné Nianguna.
Ouais. Puis, si je me trompe pas, l'auteur est quand même plus connu du côté européen. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur son travail en général?
Oui, il est vraiment connu. Il a été invité, c'est l'auteur invité au Festival d'Avignon il y a une dizaine d'années. Écoute, il est incroyable. Moi, c'est sa verbe. Il a une manière d'écrire qui lie humour noir, mais en même temps super pertinent, toujours d'actualité. Il y a des textes qu'il a écrits il y a 25 ans qui sont encore montés maintenant. Il y a des textes qui montent maintenant, on se demanderait si ça a été écrit à 100 ans aujourd'hui. Il est vraiment particulier, tu sais. Il n'est pas juste auteur, il est comédien. Il enseigne aussi dans les conservatoires. C'est un dramaturge. C'est vraiment, c'est un homme politique aussi. C'est vraiment une personne brillante. Mais ouais, moi je suis une fan. Hein, donc, je serais pas connue, je suis vraiment fan.
Absolument. Puis est-ce que vous avez eu la chance d'échanger avec lui lors du processus de création ou pas du tout?
Oh oui, bien sûr, on est en contact. Puis moi, je l'ai même rencontré. Quand j'ai joué il y a quelques années au Théâtre La Colline à Paris, il était juste à côté, donc on a pu se rencontrer. Ouais. J'ai même montré en avant-première, j'ai montré la Cénote, Mohamed Ali. Oui, il m'a donné des conseils. Il m'écrit avant chaque première parce qu'il veut passer des messages aux acteurs. Non, il est très présent. Wow. Il y a eu beaucoup d'échanges. Il est toujours surpris qu'on reprenne ce texte-là. Et encore plus à plusieurs voix, parce qu'on n'est pas les premiers à faire ça. Oui. En Europe, il a été beaucoup joué, puis c'est tout le temps à plusieurs voix. Ça le surprend toujours, mais il est super.
Oui. Mais parlons-en justement du texte. Tu as mentionné qu'il était question de racisme, mais si on regarde un peu plus l'histoire qui nous est racontée sur scène, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce texte-là, « M'appelle Mohamed Ali »?
M'appelle Mohamed Ali », c'est un texte qui se sert de métaphores pour parler... je sers de la métaphore de la boxe pour parler de l'acteur sur scène et qui se sert de Ali, le grand homme qui était Mohamed Ali, ce grand activiste de la cause noire. Il se sert de ce personnage-là pour parler de la cause noire, pas juste sur scène, mais dans le monde entier. C'est pour ça que ce texte-là, je pense qu'il peut nous rejoindre, qu'on soit d'Afrique, d'Europe ou des États-Unis ou même du Canada, mettons. Absolument. Donc c'est ça, c'est à travers donc on fait des avant-arrière. Parfois on est avec Ali qui raconte comment il s'est défendu contre le FBI. Et parfois on est avec un jeune acteur qui s'appelle Étienne dans la fiction, qui lui raconte comment il se sent sur scène. Puis on est avec des acteurs québécois qui eux par moment jouent, par moment ne jouent pas. Donc on se livre, c'est comme intime, mais en même temps on parle des États-Unis d'Amérique, en même temps on parle de la traite d'esclavage, en même temps on parle du Québec aujourd'hui. Donc ça rallie un peu tout, mais c'est très rassembleur. C'est vraiment pas, il se passe pas un match de boxe sur scène, mettons. C'est pas une lutte. C'est vraiment, c'est comme un ping-pong, je dirais, entre le public et les acteurs sur scène.
Absolument. Comme un espèce de dialogue, c'est ça aussi le but, je crois, de la pièce.
Exactement, exactement. On n'est pas, y a rien d'accusateur, pas du tout. C'est vraiment, c'est une discussion, c'est vraiment un dialogue, c'est une discussion. Puis j'aime dire, parce que c'est une métaphore qui est souvent reprise en boxe, c'est une danse. C'est une danse, mais elle se danse vraiment à deux, puis c'est avec les comédiens et le public.
Ouais.
Puis juste se laisser aller.
Oui. Puis tu l'as mentionné, je veux dire, c'est pas la première fois que le spectacle est monté à plusieurs voix. À la base, c'est un monologue. Vous, de votre côté, qu'est-ce qui vous a motivé à mettre 8 comédiens, comédiennes sur scène pour porter ce texte-là?
Ben, nous, on voulait vraiment montrer la multiplicité, des communautés noires, de la personne noire. Parce que quand on est comédien, puis je pense que quand on est comédien, qu'on soit blanc ou noir, peu importe, je parle vraiment comédien avec un grand C, on se retrouve dans un casting. Mais quand on est un comédien noir, notre casting, c'est être noir. Mmh. Là, j'ai réalisé que toute la gang qu'on a réussi à réunir, la plupart, il y en a qui ont 20 ans, d'autres qui en ont 45, d'autres même 60, ils passent les mêmes auditions. Comme si vraiment on était qu'une affaire. Donc là, on s'est dit, OK, si on monte ce texte-là, faut qu'on montre qu'on est multiples, qu'on est plusieurs, qu'il y en a de 45 ans, puis qui sont activistes, d'autres le sont pas du tout, puis qu'on pense pas du tout la même chose aussi. C'est vraiment pour montrer qu'on n'est pas un bloc monolithique. Oui. On est des personnes extrêmement différentes, puis ce qui nous rejoint, la plupart, c'est être noir, et encore, je pense que c'est être comédien.
Oui. Mais c'est cette pluralité-là de voix et de vécus différents qui est mise sur scène, dans le fond.
Exactement, puis c'est ça qui est intéressant, c'est que tout d'un coup, on voit dans l'intime où on a Widmer Normil qui parle de son expérience, puis lui, il a 45 ans d'expérience, avec un jeune Vlad Alexi qui parle d'une autre expérience, puisque lui, c'est un Québec plus d'aujourd'hui, vu qu'il a une vingtaine d'années. C'est vraiment cette pluralité des communautés noires, des expériences noires. c'est très enrichissant, finalement.
Ben oui, puis si je comprends bien, il y a quand même eu une adaptation au niveau du texte. Si on parle de la réalité du Québec, puis du vécu de chaque comédien qui se retrouve sur scène.
Pas du tout. Non? Il n'y a eu aucune... Ça qui est fou, c'est qu'il n'y a eu aucune adaptation, mais recevoir la pièce du public, on pourrait croire que ça a été écrit pour le Québec. Pourtant, on n'a rien changé. Wow. À part l'accent. On s'est permis de garder notre accent.
Puis, comme j'ai mentionné plus tôt, c'est pas la première fois que la pièce est présentée. Vous l'avez présentée en 2022 au Festival Transamérique, puis après ça, au Théâtre du 4 sous. Là, on se retrouve en 2024, 2 ans plus tard. Est-ce qu'il y a eu des changements importants depuis, un retravail sur le spectacle ou pas du tout?
Ah, il y a eu des gros changements, principalement parce qu'on n'a plus la même distribution.
Ouais.
Donc, on a quand même remplacé 3 acteurs. Puis comme c'est un show choral, un show de chœur, il y a beaucoup de partitions. On a fait appel à Claudia Chanta, qui est une chorégraphe montréalaise. Il y a beaucoup de partitions en chœur, donc ça prend beaucoup de travail avant d'avoir comme une unicité. Donc, on a dû quand même retravailler avec les nouveaux acteurs. Donc, puis comme je dis, cette pluralité de voix, on change une personne, c'est tout à fait un autre spectacle. Donc oui, c'est quand même très différent. Le texte reste le même, mais ça, il bouge plus pareil, je trouve.
Puis, tu l'as mentionné, on n'assiste pas nécessairement à un match de boxe, mais ça reste quand même que c'est un spectacle avec une grande portion physique, si je ne me trompe pas. Justement, tu as mentionné la chorégraphe. Comment cette partie-là du travail s'est déroulée, puis comment ça prend forme sur scène, ce travail physique-là?
Bien, c'est sûr que je ne suis pas Claudia, je vais essayer de parler pour elle. Le travail qu'on a fait en collaboration avec elle.
Ouais.
Donc, nous, ce qu'on voulait, c'était aussi qu'on voulait, sans avoir à parler de boxe ou à être à boxer sur scène, on voulait qu'on ressente le physique. Parce qu'on parle quand même beaucoup d'Ali, puis Ali, c'est quand même c'était un grand monsieur de 6 pieds 2 qui bougeait tout le temps, qui était comme, tu sais, full arrogant. Donc, on voulait avoir le corps physique d'Ali. Il y a comme 3 corps physiques dans la pièce. Il y a le corps physique d'Ali, il y a le corps du comédien qui est dans la pièce, dans la fiction, il y a le corps des comédiens sur scène, qu'on se joue pas. Et là, j'avais besoin vraiment d'une chorégraphe pour aller chercher ces 3 univers-là.
Absolument.
Donc, c'est vraiment comme ça que ça se traduit. Puis comme la pièce est un monologue, hein, donc normalement, comme c'est une personne toute seule, je dirais qu'elle change d'accent, puis on comprendrait que c'est un autre personnage. Là, comme on était plusieurs, c'est plus difficile parce qu'on n'a pas tous le même accent. On avait besoin de quelque chose de physique aussi pour pouvoir marquer ces changements de personnages, ces changements de ton. Donc, c'est vraiment là qu'on a été chercher la chorégraphe.
Absolument. Puis là, tu parles de tout l'aspect un peu de mise en scène. Tu as travaillé avec Philippe Racine. C'est quoi les défis et les avantages d'avoir travaillé à deux sur ce spectacle-là? Puis comment vous avez installé cette dynamique-là de co-mise en scène?
Écoute, je ne vois que des défis. À la fin, et maintenant que ça fait 2 ans qu'on a fait le travail, je peux voir les avantages. Parce que, regarde, on avait un comédien en moins, puis finalement, Philippe a pu reprendre la partition.
Ouais.
Donc ça, c'est quand même un gros avantage. Mais sinon, c'est un gros défi, parce que finalement, une co-mise en scène, j'aurais pensé que c'était un travail qu'on se partage à deux, puis finalement, c'est un travail qu'on fait 2 fois plus. Parce que là, les deux, on n'avait pas du tout la même vision, donc il fallait qu'on se rejoigne, donc c'est 2 fois plus de travail.
Ouais.
Mais ce qui est super, c'est qu'on s'est rejoint grâce aux autres collaborateurs.
Mm.
Parce qu'il y a un texte, il y a des metteurs en scène, des acteurs, mais aussi le scénographe. Ben, la scénographe, il y a la conception lumière, la conception musicale, il y a... Claudia qui est arrivée, donc c'est là qu'on s'est rejoint, parce qu'on avait comme l'univers, on voyait quel univers on voulait, puis on s'est comme retrouvé là-dedans, mais ça a été un gros travail. Je veux dire aux gens s'ils pensent que ça va être plus facile à deux, non, c'est 2 fois plus, c'est comme en couple, c'est 2 fois plus de travail.
Ben, c'est une réponse tellement honnête, mais c'est en même temps, je comprends, parce qu'on a tellement des visions des fois artistiques, un souci du détail qui peut tellement être différent, puis des envies
exactement
complètement contraires. Mais après ça, c'est beau d'arriver justement à ce dialogue-là commun pour présenter un spectacle qui peut peut-être justement par la suite rejoindre encore plus de personnes, considérant qu'il a été créé avec 2 regards complètement différents.
Oui, oui, puis aussi, c'était ma première mise en scène. Ouais. Philippe en a déjà fait plusieurs. Donc ça, l'avantage quand même, c'est que je me suis sentie épaulée. J'étais pas toute seule dans une première mise en scène, à diriger 9 personnes en plus, au Festival Transamérique. C'était quand même gros. Ouais. Donc j'avoue que le plus gros avantage, c'est que j'avais quelqu'un avec moi pour, comme tout le temps, ça va aller. Lui, il avait déjà plusieurs cordes à son arc. Ouais. Donc on arrivait à 9h du matin pour l'entrée en salle. J'étais moins perdue. Mais c'est beaucoup de défis, mais maintenant je suis prête à faire de la mise en scène toute seule.
Mais justement, parlons-en de possibles projets futurs. Est-ce qu'il y a d'autres projets qui t'animent présentement ou qui vont t'animer dans les prochaines semaines?
C'est sûr que là, j'ai eu un bébé il y a 6 mois. Oh. Donc c'est un gros projet. Et c'est lui qui m'anime. Oui. Et il va m'animer dans les prochains mois. Puis j'ai présenté mon solo en novembre dernier. Donc mon fils avait 1 mois et demi. Oui. Donc je m'en vais en tournée avec ce solo-là dans les prochains mois.
Super. Puis sinon, du côté du spectacle M'appelle Mohamed Ali, est-ce qu'il y a d'autres dates d'annoncer suite à celle de Québec? Ou pour le moment,
non,
on fait une petite pause?
C'est la fin.
La fin officielle.
Oui. Notre dernière date, c'est une fin officielle aussi parce qu'on a tous des projets qu'on a envie de réaliser. Comme moi, j'ai mon solo, Philippe a son solo qui tourne, Lynn, c'est son prochain spectacle, joue pas dans l'année prochaine, mais l'année d'après. Donc, c'est un peu difficile de réunir autant de personnes, mais il aura eu une belle longue route quand même. Ça fait quand même deux, parce que nous, on travaille sur ça bien avant 2020. Oui. Donc, ça fait un moment et je pense qu'il est temps de le laisser aller aussi.
Oui, donc quand même pour les gens qui souhaitent le voir, c'est leur dernière chance, là. Donc il ne faut pas le manquer au Diamant cette semaine. Donc si les billets ne sont pas achetés, il faut le faire tout de suite.
Oui, vraiment, parce qu'il n'en reste pas beaucoup.
Non, c'est ça, il ne reste que quelques places. Ben, merci beaucoup Tatiana, puis je rappelle que M'appelle Mohamed Ali, c'est à voir du 25 au 27 avril au Diamant.
Merci beaucoup,
bonne soirée, au revoir. Donc, c'est déjà la fin pour l'émission En aparté de ce soir. Je vous remercie d'avoir été au rendez-vous. Et sinon, un grand merci également à mes deux invités de la soirée, à Tatiana Zinga-Botao, que je viens tout juste de quitter, qui est venue nous parler du spectacle M'appelle Mohamed Ali. Et sinon, mes remerciements à Citlali Germé, qui est venue nous parler de Moi Chiquita, qui est co-présenté par La Rotonde et le Théâtre Jeunesse des Gros Becs du 26 au 5 mai. C'est une co-présentation, mais sachez que La Rotonde présente le spectacle dans les lieux du Théâtre Jeunesse les Gros Becs. Donc, pour pas vous tromper et vous présenter à la Maison pour la danse, c'est au Théâtre Jeunesse les Gros Becs. Et là, vous le savez sans doute déjà, mais j'ai l'honneur d'être la porte-parole artisane du Radioton 2024 de CKRL. C'est tout bientôt les 26, 27 et 28 avril prochains, en fin de semaine. Ça commence ce vendredi. Les billets pour les performances entrevues sont en vente et l'encan est lancé sur le site de CKRL. Je vous invite à aller jeter un coup d'œil à la programmation et j'aurai sans doute la chance de me retrouver derrière le micro quelquefois pendant la fin de semaine. Donc, surveillez ça si jamais vous avez envie de continuer à m'entendre. Mais sachez que je serai de retour les lundis 19h dès la semaine prochaine pour une autre émission en aparté. Et sinon, l'émission qui suit, c'est les saints patrons de la Couffaine. Ils seront avec vous dès 20h. Donc, je vous dis à vendredi pour l'émission d'ouverture du Radioton et bonne fin de soirée. Don't believe.
I can almost taste a smoky trail of myrrh.
Salut, ici David Bugeaud de Fudge. Cette année, on a l'honneur d'être porte-parole artistique du Radioton de CKRL. Les 26, 27 et 28 avril prochains, on t'invite à te joindre à nous autres et à donner généreusement. Parce que CKRL, c'est une radio différente qui joue un rôle essentiel à la culture d'ici. Le Radioton de CKRL, c'est le rendez-vous annuel pour soutenir ta station communautaire préférée. Manque pas ça! Alléluia.
Deux décennies de carrière auront permis à Kate Kuna d'assembler une œuvre musicale où l'insolence nourrit la beauté. Son dernier album double, Métastase, est acclamé par la critique. Il est sans équivoque l'un des auteurs, compositeurs, interprètes les plus agiles de sa génération. Voyez Kate Kuna sur scène le 10 mai prochain à l'Impérial Belle de Québec. KateKuna.com pour toutes les dates de spectacle.
Audiolite. Amplificateur pour casque d'écoute, amplificateur de puissance, lecteur CD, table tournante, enceinte multiple d'extérieur ou Wi-Fi Bluetooth, système compact de cinéma maison. Audiolite, 50 ans de tradition et d'innovation. Toujours spécialiste en son et images. Audiolite.qc.ca.
L'Anglicane présente un concert exceptionnel. Le 27 avril, laissez-vous transporter par l'alchimie musicale de Chang Puissance 2 Duo. Réservez vos places dès maintenant à l'Anglicane de Lévis. Billets disponibles au espacedcl.ca.
Dans le cadre du 40e Festival international de musique actuelle de Victoriaville, CKRL 89.1 est fier de collaborer à la présentation du concert Community Ensemble with Harry Brown de l'ensemble Natural Information Society mené par Joshua Abrams le vendredi 17 mai 2024 à 22h. Pour des billets et tous les détails sur le 40e FIMAV, visitez le fimav.qc.ca.
Participez à l'événement radiophonique incontournable de l'année, le Radioton de CKRL. Pour cette occasion spéciale, la station se transformera en véritable cabaret du 26 au 28 avril. Ne manquez pas ça!
Ce Radioton vous est présenté grâce aux partenaires gouvernementaux suivants. Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications. Jonathan Julien, ministre responsable de la capitale nationale. Sozanetti, député de Jean Lesage à l'Assemblée nationale. Étienne Grandmont, député de Taschereau à l'Assemblée nationale. Julie Vignola, députée fédérale Beauport-Limoilou. Et Jean-Yves Duclos, député fédéral de Québec.